Cinémag sur Radio Grand Ciel, une émission de l'option cinéma du lycée Rotrou de Dreux, proposée par
Sandrine Cornu,
Christelle Vaudève
et Thierry Méranger.
Chers auditeurs, bonjour. Pour cette deuxième émission de l'année, Cinémag va vous parler de Phase 4 de Saul Bass, réédition d'un film rare de 1974. Alors Christelle, tu nous présentes un peu Saul Bass ?
Oui, alors Saul Bass est américain, il est né en 1920, il fait des études de dessin. C'est quelqu'un qui va se diriger assez tôt vers le graphisme et la conception graphique, le design. Et il va assez vite se tourner vers le milieu du cinéma, en 1955 notamment, en collaborant avec Otto Preminger. Voilà, et donc il travaille sur l'affiche de l'homme au bras d'or et va... complètement révolutionné en fait le générique au cinéma, puisqu'il va aussi faire le générique du film. Jusqu'à maintenant, le générique était purement informatif, on y trouvait le nom des différents comédiens et techniciens qui avaient participé à la conception du film, et avec Saul Bass le générique va devenir un véritable terrain d'expérimentation par rapport à l'image. C'est quelqu'un qui va faire entrer le générique dans le film à proprement parler, qui va imprimer au film sa carte d'identité, presque son ADN, plongeant le spectateur dès les toutes premières images du film dans un univers très particulier qui sera celui du film. Donc voilà, Saul Bass va collaborer par la suite avec Hitchcock. C'est aussi, c'est surtout d'ailleurs grâce à cette collaboration qu'on a retenu le nom de Saul Bass, puisqu'il va finalement faire trois seuls films avec Hitchcock, mais qui vont rester comme des morceaux d'anthologie. Il va réaliser le générique de Vertigo, de La mort aux trousses et bien sûr de Psychose. Donc voilà, on retient toute une esthétique, notamment graphique, géométrique, une esthétique des lignes très présente. Hein. C'est quelqu'un qui a été très influencé par le Beauce, par exemple. Enfin voilà. Donc cette collaboration-là va le rendre un peu connu et en tout cas, il a des admirateurs farouches dans le monde du cinéma.
Il se dit même qu'il aurait collaboré à la fameuse scène de la douche de Psychose.
Oui, alors effectivement, bon, ça c'est un épisode qui est un peu plus polémique dans la carrière de Saul Bass. En tout cas, il y a eu une petite fâcherie à la suite de ça entre lui et Hitchcock, puisque effectivement, il aurait participé à la conception visuelle de la séquence, de même qu'il aurait dessiné les storyboards, mais bon, Hitchcock était peut-être un peu frileux quant au fait d'ébruiter cette parenté par rapport à cette célèbre scène de la douche. Il a aussi travaillé d'ailleurs avec Kubrick, notamment en créant la célèbre affiche de
Shining.
Et en élaborant aussi avec Kubrick des scènes de combat dans Spartacus. Saul Bass après s'est essayé lui-même à la réalisation. Il a réalisé quelques courts-métrages et surtout un long-métrage dont Thierry tu vas nous parler dans quelques instants, mais qui n'a pas eu le succès escompté. Donc il a un petit peu traversé le désert et s'est retourné davantage vers la conception graphique et vers le monde un peu plus publicitaire, disons. Mais il a aussi connu un regain de travail avec le cinéma dans les années 90, puisqu'il a là fructueusement collaboré avec Scorsese et pour des films qui ne sont pas de petits films, mais qui sont des films comme Les Affranchis, Le Temps de l'Innocence, Casino, ou même le documentaire de Scorsese sur mon voyage à travers le cinéma américain.
Alors Thierry, tu peux nous parler maintenant du film Phase 4 ?
Oui, alors compte tenu de l'importance que Christelle vient de décrire de Saul Bass dans le cinéma, ce film est un paradoxe parce que c'est l'unique film de Saul Bass, en tout cas l'unique long métrage, l'unique film de plus d'une heure que nous connaissions de lui. Il a fait effectivement quelques films d'animation, mais il n'a pu tourner qu'une seule fois son propre long métrage et il était alors âgé de 54 ans. À ce moment-là, il y a une certaine attente par rapport à ce qu'est le personnage de Saul Bass et par rapport à son œuvre, et c'est une surprise en fait. On lui confie un film qui devrait être un film de monstre en se disant, bah voilà, vous avez carte blanche monsieur Bass pour faire un film où en gros la Terre va être envahie par des créatures monstrueuses, et Saul Bass prend tout le monde à contre-pied en choisissant l'invasion de la Terre par les fourmis. Alors ça c'est le premier élément un petit peu surprenant, et puis le deuxième élément surprenant c'est justement l'atmosphère dans laquelle il va faire évoluer cette intrigue, à savoir que au lieu d'avoir des univers sombres, eh bien ici Saul Bass va nous proposer un film solaire qui se déroule uniquement dans un désert, le désert de l'Arizona, et face à la colonie de fourmis qui menace d'envahir le monde, eh bien il n'a qu'une poignée de scientifiques. Et c'est donc à partir de ces éléments somme toute assez minimalistes qu'il va bâtir son film. C'est d'autant plus surprenant que même s'il joue sur les échelles de plan, c'est-à-dire sur les rapports de hauteur entre les humains et les fourmis, on peut dire que globalement, le film n'est pas un film qui va jouer sur la peur, mais sur quelque chose de beaucoup plus angoissant et qui tient à somme toute la nature documentaire du film. Il ne s'agit pas de faire jouer des fourmis. En revanche, tout va partir de l'observation de fourmis et toute une partie de ce film, de science-fiction, fantastique si on veut, eh bien, c'est une partie purement documentaire. Et la force de Saul Bass, c'est d'intégrer tout cela à l'intrigue et finalement de nous faire peur avec cela et de faire petit à petit progresser l'angoisse d'un bout à l'autre du film. C'est ce qui fait que le film a pu sembler, à l'époque, un petit peu étonnant pour les producteurs, qui ont même été jusqu'à couper certaines séquences, et puis qui film qui a été un petit peu étonnant pour le public aussi, et c'est vrai qu'il n'a pas, à l'époque, obtenu un succès public.
Mais alors, du coup, on n'y trouve plus la patte de Saul Bass qu'on trouvait dans les génériques ?
Alors, on ne trouve pas la patte de Saul Bass de la même façon, c'est-à-dire que on s'attendait dans le film sans doute à quelque chose qui serait près peut-être du cinéma d'animation ou alors à une forme de rythme qu'il aurait pu par exemple tirer des films de Hitchcock ou de Preminger. Là, on va jouer au contraire sur la longueur et puis sur l'aspect document. En revanche, ce que l'on peut dire, malgré tout, si on analyse le film peut-être au deuxième degré, c'est qu'on va remarquer que ce que construisent ces fourmis, parce que là aussi, si ces fourmis sont remarquables, si on envoie ces scientifiques dans le désert, eh bien c'est parce que ces fourmis font petit à petit preuve d'une activité extraordinaire et d'une intelligence sans limite, ces fourmis construisent des formes gigantesques et complètement géométriques. Et cette géométrie-là va nous renvoyer peut-être à cette forme de géométrisation un peu tordue que l'on trouve dans les affiches et les génériques de Saul Bass. C'est assez intéressant parce que finalement quelqu'un comme Stanley Kubrick, pour lequel Bass a aussi travaillé, ne fait rien d'autre lorsqu'il utilise le fameux mégalithe dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Et voilà, il y a comme ça des parentés, des échos que l'on peut retrouver, presque des citations, mais l'aspect extérieur, au départ, est un aspect qui a tout à fait surpris.
Et est-ce qu'on peut parler un petit peu des acteurs ?
Oui, alors ce qui est intéressant avec le choix des acteurs, c'est que ce ne sont pas des acteurs de premier plan. Nigel Davenport, Michael Murphy et Lynn Frederick ne sont pas passés véritablement à la postérité comme étant de grandes stars hollywoodiennes. C'est sans doute ce qui a un petit peu desservi le film d'un point de vue commercial. Mais d'un autre côté, c'est assez intéressant d'avoir des humains qui, pour nous spectateurs d'aujourd'hui, apparaissent comme des humains lambda. Cette idée que l'on fait finalement du fantastique et de la science-fiction à partir d'éléments quotidiens, je pense que cette réussite-là, elle tient aussi au fait que nous n'avons pas de véritables stars dans Phase 4.
Alors comment finalement ce film a-t-il réussi à acquérir ses titres de noblesse ?
Eh bien, on a ici, selon toute évidence, un film culte. C'est-à-dire ces films qui ont eu une distribution un petit peu chaotique, qui ne sont pas véritablement considérés par tous comme des chefs-d'œuvre et que beaucoup de cinéphiles ne connaissent pas. Eh bien, ce sont des films qu'on a un petit peu regardés sous le manteau, des films qu'on enregistrait en VHS lors des rares passages à la télévision. D'ailleurs, aujourd'hui encore, il faut le dire, il n'y a pas d'édition DVD française du film. C'est pour ça qu'on est très content qu'un distributeur le montre dans un premier temps en salle. Ce sont des films, encore, il y a encore quelques mois, quelques années, que l'on téléchargeait de façon illégale, que certains téléchargeaient de façon illégale sur Internet, faute de pouvoir les voir autrement. Donc, c'était bien ici tous les ingrédients du film culte qui entouraient Phase 4. Donc aujourd'hui, c'est intéressant de voir en quoi ce film, véritablement, est un film décapant, étonnant, même s'il ne correspond pas exactement à l'idée qu'on se fait d'un film de science-fiction qui verrait l'humanité en proie aux attaques d'une fourmilière géante.
Alors justement, on peut peut-être mettre un coup de projecteur sur le distributeur de ce film ?
Oui, le distributeur de ce film est un distributeur parisien intéressant qui s'appelle Swashbuckler Films, qui est spécialisé dans la résurrection, on va dire, de films anciens, de films du patrimoine, comme on le dit aussi. Et effectivement, le choix de Phase 4 est un choix particulièrement pertinent. Donc le distributeur prend des risques pour acheter les droits d'un film et les proposé aux salles de cinéma. Nous sommes d'autant plus heureux que l'une des personnes qui a été à l'origine de la diffusion de ce film et qui travaille pour Swashbuckler Films, c'est quelqu'un qu'on connaît bien à Dreux. C'est une jeune femme qui s'appelle Mélissa Martin et qui est une ancienne de l'option cinéma du lycée Rotrou. C'est donc l'occasion pour nous de rappeler que les métiers du cinéma sont nombreux, multiples et variés, et qu'aujourd'hui, l'un des métiers les plus intéressants, enfin, tous les métiers du cinéma sont intéressants, hein, du réalisateur au monteur, en passant par le maquilleur, le comédien, etc. Mais l'un des métiers intéressants, c'est la distribution.
Et un métier méconnu.
Très méconnu. Et voilà. Et c'est d'autant plus intéressant que ça arrive avec finalement un film de Saul Bass, puisque Saul Bass est quelqu'un qui vient nous rappeler que le cinéma, c'est aussi, finalement, pour le spécialiste de l'affiche et de la publicité, c'est aussi une question de communication, c'est savoir communiquer sur un film. Après tout, faire un bon générique, c'est déjà savoir communiquer sur un film. Faire une bonne bande-annonce, c'est communiquer sur un film. Le travail d'un distributeur, c'est de porter le film à la connaissance de ceux qui seraient susceptibles d'être son public. Et c'est évidemment un très très beau métier qui, voilà, qui propose quand même un certain nombre de débouchés. Donc nous sommes très heureux de rendre aussi hommage à ce métier de distributeur par l'intermédiaire d'une ancienne élève.
C'est l'occasion aussi d'ajouter que nous avons une élève qui a intégré la FEMIS en distribution.
Absolument, absolument. C'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui veut dire aussi que nous essayons, dans la mesure du possible, de ne pas négliger ces aspects-là de la culture cinématographique. Voilà, il se murmure que les prochaines réformes du baccalauréat, notamment pour les aspects artistiques et le cinéma, prendront davantage en compte ces aspects-là, économiques et et communicationnels. Eh bien, je dirais que nous avons déjà commencé à travailler cet aspect. Je vous propose maintenant de revenir en 1974 pour écouter un document rare. Il s'agit de la bande-annonce d'époque française de Phase 4. Vous allez voir, on se retrouve tout à fait dans un autre temps.
Pendant quelques minutes, vous allez découvrir une tentative originale de spectacle cinématographique. Si cela excite votre curiosité, vous ne manquerez pas de voir Phase 4.
Elle nous renvoie mon message.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Il n'y a aucun message.
Si là-bas il y a une intelligence, je veux qu'elle sache qu'il y en a une ici.
Rendez-vous donc avec nos amis les fourmis mardi 16 janvier à 20h à Ciné-Centre pour découvrir Phase 4. On se quitte avec un extrait de la bande originale du film signé Brian Gascoigne. À la semaine prochaine.